Chers frères et sœurs, nous poursuivons notre parcours biblique en compagnie des enfants de l'école du dimanche. Au mois de septembre, nous étions avec Josué sur les bords du Jourdain, prêts à entrer en terre promise du côté de Jéricho. Le mois dernier, nous étions avec Gédéon, figure emblématique de la période des juges. Et nous allons ce matin nous pencher sur le cas David, l'un des rois les plus éminents de l'histoire biblique. Et c'est dans le deuxième livre de Samuel que nous allons ce matin lire ce texte qui nourrira notre méditation. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 7, nous allons lire ce que le roi David envisage au moment où sa royauté est assez bien installée, assez bien implantée. Lorsque le roi habita dans sa maison, un véritable palais en vérité, et que l'Éternel lui eut donné du repos en le délivrant de tous ses ennemis qui l'entouraient, il dit au prophète Nathan, « Vois donc, c'est moi qui habite dans la maison de cèdre, alors que l'arche de Dieu habite sous la toile de tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Or, cette nuit-là, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan en ces mots, « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui bâtiras une maison pour que j'y habite? Car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les Israélites hors d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Mais je me suis déplacé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où je me suis déplacé avec tous les Israélites, ai-je dit un mot à quelques tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de faire paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu parleras ainsi à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel. C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le conducteur de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé, j'ai retranché tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai attribué une place à mon peuple d'Israël, et je l'ai planté pour qu'il y demeure et ne soit plus agité, pour que les hommes injustes ne recommencent plus à l'humilier comme autrefois. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Aussi, l'Éternel t'annonce qu'il te fera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui comme je l'ai retirée de Saül. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. Dans notre recueil de chants, louanges et prières, nous chantons le cantique 213, les trois strophes de ce cantique 213, et nous nous levons pour cela. Éternel notre Dieu, donne-nous d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous le silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous avons écouté devienne une parole qui nous aide à mieux comprendre notre vie et à mieux te comprendre. Chers frères et sœurs, c'est donc une fois qu'il est comblé de tout ce qu'il pouvait espérer que le roi David se met à penser tout particulièrement à Dieu. Et en soi, c'est quelque chose d'extrêmement positif, car bien souvent, lorsque nous sommes comblés de toute chose, c'est justement le moment où nous ne pensons plus beaucoup à Dieu. Eh bien, pour David, c'est l'inverse. Il continue à s'intéresser aux choses de Dieu, alors même que tout lui a réussi. David habite désormais dans un palais. Lui, qui n'était au départ qu'un modeste berger, alors que Dieu, lui, continue symboliquement à résider sous une tente. Une tente dont nous avons fait connaissance au moment de la sortie d'Égypte, puisque cette tente est ce qu'on appelle la tente de la rencontre, le tabernacle, qui a permis à Dieu, symboliquement, d'aller au rythme de l'exode des Hébreux. Voici donc d'un côté le roi, avec les fastes de la cour, et de l'autre côté, le Dieu d'Israël, qui, dans une certaine mesure, est aussi mal logé que des sans-domicile fixe, qui trouvent parfois abri sous une tente qu'on leur a attribuée. Il n'est pas impossible que, voyant les fastes dans lesquels il vit, David, le roi, ait quelques scrupules. Est-il normal que je sois aussi bien logé, alors que Dieu, lui, n'a qu'une tente en guise d'abri? Des questions que se posent aussi de nos jours, des paroissiens qui peuvent se demander s'ils laisseraient leur propre logement dans un état semblable à notre temple, qui n'est pas seulement gris de saleté, mais aussi souillé par endroits par les oiseaux à l'entrée, dont pas mal de chaises sont abîmées, dont certains endroits semblent être comme laissés à l'abandon. La présence de Dieu ne s'éprouve pas nécessairement plus dans un temple que chez soi, mais pas moins non plus. Et pour jouer sur les stéréotypes, nous sommes en droit de nous interroger, à la manière de David, serait-il normal que Dieu soit moins bien loti que nous ? Question que vous ne vous êtes pas vraiment posée, je vois. Eh bien, le roi David se pose cette question, il entend réagir et il appelle Nathan pour lui faire part de ses états d'âme et lui soumettre son point de vue. Et bien entendu, le désir d'édifier une maison digne de Dieu peut se comprendre. D'abord, il s'agit d'honorer Dieu, tout simplement, en lui bâtissant une maison, une demeure qui soit digne de lui. Ne dit-on pas que Dieu est au-delà de tout, alors il conviendrait que la beauté du lieu soit excessive. Bien entendu, dans l'histoire de l'Église, ce n'est pas simplement le désir de rendre gloire à Dieu qui a présidé au fait d'édifier des cathédrales, d'édifier des églises somptueuses comme celle-ci. Il y avait aussi, par ces bâtiments, le désir d'asseoir le pouvoir de l'Église, de montrer que l'Église était majestueuse et qu'elle avait le véritable pouvoir sur les personnes. Mais les artistes, les architectes, les bâtisseurs, quelques évêques aussi, se sont lancés dans ces grands projets de construction pour la plus grande gloire de Dieu. Et les intentions de beaucoup étaient vraiment aussi pures que celles de David. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu et le placer à la bonne hauteur sur l'échelle architecturale. Il y a donc tout d'abord le désir d'honorer Dieu dans ce projet de bâtir une maison pour Dieu. Nous pouvons aussi considérer qu'il y a là une manière astucieuse d'organiser le culte. Et si la plupart des civilisations ont opté pour l'urbanisme, la construction en dur, C'est d'abord pour des raisons pratiques. Supprimons ce temple. Ce n'est qu'une hypothèse de travail. Décidons de ne plus faire que des réunions de quartier, chez les uns ou chez les autres. Et déjà, nous perdons tous les gens de passage qui n'auront pas eu l'information pour savoir où se rendre et à quel moment. Dans une société en mouvement, dans un monde où les déplacements sont extrêmement fréquents, quelques points fixes permettent de se repérer, de s'orienter et de trouver sa route. Et toute personne qui passe par le 145 rue Saint-Honoré le dimanche à 10h30 sait qu'il trouvera une porte ouverte sur le Dieu auquel Jésus-Christ rend témoignage. Voilà un point fixe. Et cela fait bientôt 200 ans que c'est comme cela chaque dimanche. Et nous entendons bien continuer à être à l'image d'un phare qui aide les navires perdus dans l'obscurité ou qui sont pris dans la tempête à pouvoir rejoindre correctement le port. Il n'y aurait rien de plus démobilisateur, je pense, que de devoir courir en permanence après l'information pour savoir où le culte aura lieu et à quelle heure. Eh bien, dans une certaine mesure, édifier le temple de Jérusalem, c'était donner un rendez-vous fixe à tous les fidèles et leur donner un point de repère avec lequel on pouvait s'orienter. Enfin, quelque chose de stable dans un monde qui n'arrête pas de bouger et de changer. Et ici, nous entendons être justement ce pôle de stabilité qui permet de donner aux uns et aux autres un peu de confiance quand ils ont l'impression que le sol se dérobe en permanence sous leurs pieds. Au moins ici, il y a un endroit où pouvoir se reposer un peu. Bâtir un temple, c'est parler aussi de la fidélité de Dieu, qui reste proche des siens. Dieu reste là, présent, disponible, au milieu du peuple. Alors construire un temple peut être une manière d'honorer Dieu. Bâtir un temple peut être une manière de simplifier l'organisation du culte, de la rendre plus efficace. C'est aussi une manière de rendre Dieu plus visible en quelque sorte, pour autant qu'on puisse le faire. Un temple, nous le constatons bien chaque dimanche, nous le constatons bien aussi à l'occasion des concerts ou des expositions qui sont organisées ici. C'est une manière de rassembler des personnes. Et en protestantisme, la première fonction du temple, c'est de rassembler les personnes. L'Église, Ecclesia, c'est le rassemblement des personnes qui sont appelées et qui forment la communauté de ceux qui répondent favorablement à cet appel. Un appel qui vient de l'extérieur, ekkaleo, appelé. On est appelé à rejoindre un lieu qui n'est pas notre maison, mais qui va le devenir. Un temple est donc fait pour rassembler des personnes. Il est fait aussi pour être vu de l'extérieur. Sinon, nous aurions choisi une cave, un sous-sol, un garage. C'est aussi pratique et plus discret. Mais c'est vrai que les temples, les églises, ont souvent été bâtis pour être vus de loin, de très très loin. Sauf pendant les périodes de persécution où, justement, on a tout fait pour que les temples soient le moins visibles possible. Bien évidemment, en bâtissant un temple, on construit en quelque sorte une image de Dieu. On présente une image de Dieu, façon de dire que ce que l'on donne à voir à l'extérieur n'est pas sans relation avec ce qu'il y a à trouver à l'intérieur. Bâtir un temple, c'est forcément donner une image de la communauté qui s'y rassemble. Un temple induit nécessairement une forme de théologie. Mettons-nous à la place de quelqu'un qui passe et repasse par la rue Saint-Honoré et qui passe devant ce temple continuellement fermé, sur lequel il est écrit « Église réformée de France », et qui n'y connaît rien au protestantisme. N'y aurait-il pas de quoi penser que nous avons là un bâtiment fermé, parce qu'il est réformé, justement, au sens de « hors d'usage » Songeons à ce que peuvent penser des personnes qui passent et qui repassent par la rue Saint-Honoré devant ce temple, continuellement fermé. Est-ce que cela leur parle vraiment d'un Dieu qui accueille ? Est-ce que cela leur parle véritablement d'un protestantisme ouvert sur le monde ? Édifier un temple, c'est rendre visible une réalité invisible, la présence de Dieu au sein du monde. Un temple dit toujours quelque chose à ce sujet. Et il serait bon de savoir ce que nous, nous disons de cette présence divine avec notre édifice cultuel. Alors voilà pour les bonnes raisons de bâtir un temple. Mais au protestantisme, nous sommes toujours un peu méfiants à l'endroit des bâtiments, et je crois que nous avons raison de l'être. Parce qu'il peut aussi y avoir de mauvaises raisons de bâtir un temple. Je l'ai déjà évoqué au sujet de cette intention d'asseoir une forme de pouvoir, parce que celui qui gère l'espace est aussi celui qui gère les personnes. Mais il y a aussi une manière peut-être un peu maladroite d'envisager la construction d'un temple. C'est lorsque nous imaginons, peut-être inconsciemment seulement, qu'en construisant une maison pour Dieu, nous allons pouvoir l'y installer, définitivement, et qu'il sera là, toujours disponible, que nous l'aurons toujours sous la main, dès que nous en aurons besoin. Si c'est ce que nous avons en tête lorsque nous bâtissons une église, eh bien alors c'est faire de cette maison de Dieu une véritable maison d'arrêt, où Dieu est en quelque sorte coincé, une maison où l'homme peut avoir l'illusion de maîtriser le divin, et même l'illusion de pouvoir mettre Dieu sous clé, de pouvoir l'enfermer. Il est là, bien au chaud, à notre disposition. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les réformateurs ont considéré qu'il valait mieux maintenir les temples fermés pendant la semaine, en dehors des heures de culte. Cela pour éviter les superstitions qui consistent à croire que Dieu est présent dans un temple, plus que dans l'intimité de notre chambre, par exemple. C'était aussi pour éviter de faire de ces lieux une sorte de musée, digne du musée Grévin, où il serait possible, là plus qu'ailleurs, d'admirer Dieu sous les traits d'une bien pâle copie. Fort heureusement pour lui, Dieu ne se laisse pas manipuler ainsi par la patte humaine. À celui qui veut le séquestrer, Dieu révèle qu'il échappe toujours à la mainmise de l'homme. En rappelant qu'il est celui qui a fait monter le peuple hors du pays d'Égypte, hors du pays de servitude, l'Éternel rappelle non seulement qu'il est un Dieu du mouvement, celui qui fait sortir, mais aussi un Dieu de la libération, une libération qui supporte mal toutes les mises au cachot, fussent-elles dans des prisons dorées. Pourquoi lui bâtir une maison en dur ? Demande Dieu, alors qu'il a toujours été très content de la tente qui lui était réservée. Eh bien, c'est que là où l'homme imagine pouvoir fixer des rendez-vous à Dieu, Dieu rétorque que c'est lui qui prend les initiatives. C'est lui qui prend l'initiative de la rencontre, de la proximité. Et comme il le fait dire à David par l'intermédiaire du prophète Nathan, c'est Dieu qui a pris David au pâturage. C'est Dieu qui l'a pris derrière le troupeau. c'est lui qui s'est toujours rendu là où était le peuple, et pas l'inverse. Et comme pour enfoncer le clou, comme pour éviter que certains pensent avoir la main mise sur Dieu, notamment en bâtissant un temple, Dieu affirme, tel que le verset 11 nous le rapporte, que c'est Dieu qui, en fait, va bâtir une maison à David. Alors même que le début de ce chapitre a commencé en décrivant David bien installé dans sa maison. Vous voyez un peu le paradoxe ? Il faut comprendre, bien entendu, que Dieu va bâtir une maison qui ne sera pas une maison de pierre, mais qui sera une maison de chair, qui passera par le fils de David et par tous les autres à sa suite. Dieu annonce à David que ce qu'il va faire pour lui, c'est de lui donner une place dans l'histoire, ce qui vaut vraiment mieux qu'une place dans le cadastre. Au projet d'une maison en dur, Dieu répond donc par le projet d'une maisonnée, d'une descendance, d'une famille. Parce que le véritable patrimoine ne saurait être seulement matériel. La vie véritable ne saurait être cantonnée à un lieu. L'existence, une belle vie, ça ne saurait être assimilé simplement à un capital immobilier. Ici encore, le nomadisme reste de mise en perspective biblique. Ce qui compte, c'est de pouvoir aller de l'avant. Ce qui compte, c'est de ne jamais se ficher complètement en terre. Mais c'est de pouvoir espérer durer en n'investissant pas dans la sécurité du sol, en n'investissant pas dans la sécurité des murs, du toit, mais en investissant dans la famille, en investissant dans les êtres, dans les personnes vivantes. La vie dont Dieu est le promoteur reste un projet. Elle est donc toujours à bâtir, toujours à construire, toujours à faire lever de terre, toujours à faire sortir des entrailles de la terre et des entrailles humaines. Une maison, un édifice, une église, un temple, cela peut être bien utile. Cela rend de grands services. Dieu en convient, qui annonce que le fils de David construira le temple. Mais un édifice n'est pas l'acte décisif par lequel le projet de Dieu avance dans l'histoire des hommes. Dieu veut rester nomade. Il souhaite rester nomade, et cela pour accompagner l'humanité au rythme de sa marche, au rythme de ses pérégrinations. Et si vous lisez le début de l'évangile selon Jean, vous verrez que le texte biblique ne dit pas autre chose. L'évangéliste Jean présente l'événement Jésus-Christ comme l'acte par lequel l'Éternel vient planter sa tente parmi les hommes. Lorsque Dieu veut entrer dans l'histoire des hommes, il ne le fait pas par les cathédrales, il ne le fait pas par les temples, il le fait par des êtres vivants. Voilà donc ce que le prophète Nathan va être chargé de ramener au roi David. Il va être chargé de le ramener à de meilleurs sentiments théologiques, en évitant que ses rêves de grandeur, ses rêves de gloire, se transforment en rêves de puissance et de domination. Et bien des siècles plus tard, dans la nuit de Bethléem, les mages, bien après Nathan, rappelleront au roi Hérode qu'être enfermé dans un palais, aussi prestigieux soit-il, n'offre pas un accès immédiat à la puissance de vie. Voici donc ce passage biblique qui nous parle du roi David, un roi emblématique, nous apprend qu'à la maison de pierre, la maison de cèdre, Dieu substitue la maison de chair, la seule qui vaille vraiment, la seule dans laquelle il faille véritablement investir. Seul lieu où il peut véritablement demeurer en restant fidèle à lui-même, ce Dieu proche de nous, ce Dieu qui est à nos côtés aux instants décisifs de notre vie. Et pas simplement quand nous le désirons, ou pas simplement quand nous y pensons. Et cela, évidemment, rejoint les instructions que Dieu avait déjà données à Moïse du temps de l'Exode, pour la fabrication de l'autel, pour les sacrifices, qui, à l'époque, permettaient de signifier la communion avec Dieu. C'est lorsque Dieu invoquera son nom qu'il sera présent, et pas lorsque le prêtre, pas lorsque le peuple le désirera. Il y a donc là, dans ces textes bibliques, une fois de plus, la mention d'un Dieu qui en permanence se libère de la main de l'homme. Un Dieu qui en permanence échappe à la mainmise, échappe au désir de le coincer et d'en faire ce que nous voulons. La présence de Dieu, et c'est aussi une grâce, ne dépend donc ni de nos bonnes volontés, ni de nos bonnes dispositions, ni du temps que nous lui consacrons, ni même du lieu que nous lui offrons. L'Éternel se rend présent, il se rend actif au sein de l'humanité, parce que c'est le Dieu qui vient, et c'est là sa caractéristique, c'est le Dieu qui vient. Ce n'est pas le Dieu statique, ce n'est pas le Dieu figé, ce n'est pas le Dieu mortellement installé dans un lieu, c'est le Dieu qui vient. Et cela se vérifie dans cette prescription que l'on trouve dans le livre des Rois, lorsque l'Arche d'Alliance, qui est considéré comme le trône de Dieu, sera installé dans le temple pour y être définitivement posé. Il y a une prescription qui dit que jamais, au grand jamais, il ne faudra retirer les deux barres qui servent à la transporter. Même installée définitivement dans le temple de Jérusalem, l'arche, qui est le trône de Dieu, doit toujours être prête au départ. Parce que notre confiance. Ce n'est pas la confiance dans un Dieu qui serait figé, ce n'est pas la confiance dans un Dieu qui serait une pâle image de ce Dieu qui vient, de ce Dieu qui nous rejoint. Amen.